Merci d'écouter RFI. Il est 13h en temps universel et 14h ici à Paris.
Anne Contenaire.
Dernière partie d'RFI Midi, nous irons en Haïti où la faim touche de plus en plus de monde. La moitié de la population et comme souvent la situation est critique pour les déplacés. Vous l'entendrez dans quelques minutes. On parlera aussi de ces drones mystérieux aperçus sur la côte est aux États-Unis. On appellera notre correspondante à New York. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. On parlera des oranges et des mandarines qui vont manquer sur les tables de Martinique à la fin de l'année.
Oui, aux Antilles, ce sont les agrumes qui agrémentent traditionnellement Noël et le jour de l'an. Sauf que des agrumes cette année, il n'y en aura pas beaucoup. Reportage à suivre de Manuel Larade de la Première Martinique.
À tout à l'heure. Et d'abord le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
La Syrie, après Assad, tente de fédérer ses forces et les Kurdes syriens veulent des garanties.
Ils demandent aux islamistes radicaux du HTS d'ouvrir un dialogue entre toutes les parties du nouveau pouvoir. Dans le nord-est, les groupes armés pro-turcs ont lancé une offensive là où se trouvent les Kurdes syriens. Selon l'ONG OSDH, les groupes soutenus par Ankara se préparent à lancer l'assaut sur la ville de Kobané tenue par les Kurdes. Pendant ce temps, la diplomatie s'active à Damas. L'ONU, l'Union européenne, envoie des émissaires. Bonjour Théo Renaudon.
Bonjour.
Depuis quelques jours, de nombreux pays se pressent d'envoyer leurs représentants pour nouer des liens ce nouveau pouvoir.
Oui, par exemple, Paris envoie ce mardi une mission diplomatique, la première depuis 12 ans, plus dans la retenue. Washington et Londres annoncent pour le moment avoir simplement établi contact avec les HTS sans jusqu'ici envoyer de représentants. D'autres pays vont bien plus loin. Le Qatar rouvre son ambassade comme la Turquie. L'Ukraine, elle, envisage de donner des céréales à titre humanitaire en Syrie où 12 millions de personnes ont faim.
Tous ces gestes interviennent alors que le pays est toujours sous le coup d'importantes sanctions économiques internationales.
Oui, depuis la révolution de 2011 et la répression d'Al-Assad sur son peuple, une grande partie du monde avait mis la Syrie sous embargo strict. Pêle-mêle, embargo pétrolier, gel de l'argent de l'État syrien à l'étranger, interdiction d'exporter des biens dans le pays, bref. Économie sous asphyxie, ce qui a des conséquences énormes pour les civils. L'envoyé spécial de l'ONU à Damas dimanche a appelé à mettre fin à toutes ces sanctions le plus vite possible. Pas si vite, répondent plusieurs pays et organisations qui disent attendre de voir comment sont traitées les minorités du pays sous ce nouveau pouvoir dominé par des islamistes.
Théo Renaudon du service international d'RFI. Et pour la première fois depuis sa chute, Bachar el-Assad s'exprime. Dans un communiqué, le président syrien déchu affirme ne pas avoir prémédité son exil. Il n'a pas, dit-il, fui de manière préméditée à la chute de Damas. Il affirme également que l'État est désormais aux mains des terroristes. De l'autre côté de la frontière en Israël, les autorités ont approuvé un projet visant à doubler la population dans la partie du Golan syrien annexée. Israël qui a de nouveau mené la nuit dernière d'intenses frappes aériennes sur des sites militaires syriens dans la région de Tartous. La défense aérienne et des dépôts de missiles ont été visés. C'est à Tartous que la Russie possède une base navale.
En France, à Mayotte, les ministres démissionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont arrivés sur place, donc sur cette île de l'océan Indien.
Au chevet d'un archipel dévasté, les autorités françaises disent redouter plusieurs centaines de morts, surtout dans les bidonvilles surpeuplées après le passage du cyclone Chido. Le manque d'eau sur l'île fait aussi craindre le retour du choléra. Aujourd'hui, le système de soins est à terre. Les routes restent souvent impraticables. Écoutez le témoignage d'Hugues. Il est infirmier, coordinateur dans le matériel médical et il ne cache pas sa colère.
Ça fait quand même 48 heures qu'on est sans électricité, ça fait 72 heures qu'on n'a pas d'eau au robinet. Et donc, sans électricité, les pompes qui envoient l'eau dans les tuyaux au niveau des usines, elles n'envoient rien parce qu'il n'y a pas d'électricité. Donc, il nous faut rapidement l'électricité pour qu'on puisse de nouveau avoir, par voie de conséquence, de l'eau au robinet. Parce que ce matin, on voyait des gens qui se baladaient avec des seaux vides et qui cherchaient des endroits pour aller chercher de l'eau. Si cette pénurie d'eau continue, je pense qu'on peut rapidement craindre le retour du choléra à Mayotte, si tant est qu'il en soit un jour sorti. On va systématiquement, quand on peut passer encore, chez les gens pour voir, comme j'ai fait ce matin chez trois patients, voir ce qui se passe, faire l'état des lieux. J'ai ramené du matériel de petite terre là pour justement ramener, distribuer sur grande terre. Alors, en parlant de ça, tout à l'heure, on est resté bloqué plus de 2h30 sur petite terre parce que là-bas, je ne pouvais pas partir tant qu'il y avait un ministre qui n'était pas dessus. Donc, si effectivement les ministres ils viennent pour en plus nous rajouter des délais Ils peuvent rester chez eux. On est déjà assez dans la merde comme ça. Qui continuent tous à défiler un tous les jours ou un tous les deux jours. Ça bloque. Là, quand je suis revenu, tout le centre-ville de Mamoudzou était bloqué parce que monsieur le ministre, évidemment, faisait sa visite.
Hugues, infirmier à Mayotte, joint par Lola Fourmi. C'était sa dernière prise de parole devant la cour criminelle du Vaucluse. Dominique Pellicot a demandé à sa famille d'accepter ses excuses. Il a également salué le courage de son ex-femme, Gisèle, après l'avoir droguée pendant une décennie pour la violer et la livrer à des dizaines d'hommes recrutés sur Internet. Dominique Pellicot risque 20 ans de prison. Ses co-accusés de 4 à 18 ans. La cour s'est retirée. Le verdict sera rendu jeudi. C'est la dernière étape avant les législatives en Allemagne. Olaf Scholz va demander un vote de confiance aux députés qu'il doit perdre pour ouvrir officiellement la voie aux élections. Plus d'un mois après l'effondrement de sa coalition, les partis se sont déjà entendus pour leur tenue fin février.
En Haïti, le gang de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, est dans le viseur des forces de l'ordre.
Un lieutenant clé de ce groupe criminel a été tué par la police hier dans la capitale. Plusieurs autres membres du gang ont été interpellés à Port-au-Prince, Peterson Luxon.
C'est un gros coup que la police nationale a asséné à la coalition Vive Ensemble. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, est désormais privé de l'un de ses plus importants soldats, Kendi ou Jeff Mafia, présenté comme son numéro 2. Il était environ de 4 heures du matin quand la coalition criminelle Vive Ensemble a lancé une attaque coordonnée contre plusieurs quartiers de la capitale, dont Badelma, Nazon, Avenue Pouplard et Poste Marchand. Des blessés ont été recensés, plusieurs maisons ont été également incendiées. Selon le porte-parole, la police se dit déterminée contre les gangs armés en vue de faire revenir le calme dans la capitale. Malgré ce coup important contre la bande à Barbecue, la guerre contre les gangs est loin d'être terminée. La population, quant à elle, attend des résultats concrets pour retrouver un semblant de paix dans la capitale. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
En Iran, la situation n'est pas revenue à la normale après un week-end de coupure d'électricité.
Des pénuries d'énergie aggravées par une vague de froid. Les écoles et les services publics sont restés fermés dans la moitié des provinces du pays. Siavosh Ghazi.
Depuis une dizaine de jours, des coupures de courant interviennent régulièrement, ce qui touche les habitations, mais aussi l'industrie à travers le pays. Et ce, d'autant plus que le pays est confronté à un manque de gaz naturel pour le chauffage, mais aussi pour alimenter les centrales électriques. Une situation d'autant plus étonnante que l'Iran possède les deuxièmes plus grandes réserves de gaz naturel au monde et fait partie des grands producteurs de pétrole au sein de l'OPEP. Le président Pezeshkian a demandé à la population de baisser de 2 degrés la température dans les maisons pour faire des économies. Les écoles, les administrations et les banques ont été fermées dimanche dans la moitié des provinces du pays et cette fermeture va continuer encore lundi. Les experts prédisent une aggravation de la situation l'année prochaine à cause d'un nombre insuffisant de centrales, des barrages non remplis à cause de la sécheresse et une production de gaz insuffisante alors que la population a l'habitude de surchauffer les appartements. Une situation d'autant plus difficile que le gouvernement envisage d'augmenter également le prix de l'essence, ce qui pourrait alimenter encore le mécontentement de la population. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
En Ukraine, selon Kiev, au moins 30 soldats nord-coréens ont été blessés ou tués ce week-end. Des troupes engagées aux côtés de l'armée russe dans la région de Koursk, partiellement occupée par les Ukrainiens depuis cet été. Selon les Occidentaux, plusieurs milliers de soldats nord-coréens ont été envoyés en Russie ces dernières semaines pour appuyer dans sa guerre Moscou. Moscou et Pyongyang qui ont signé ces derniers mois un accord de défense mutuelle. Enfin, un mot du Vendée Globe. Charlie Dalin résiste encore. Son avancée a fondu ces derniers jours dans la course à la voile en solitaire, mais il reste en tête Johan Richaume est deuxième. Il n'est plus qu'à 40 000 nautiques de Charlie Dalin. Sébastien Simon l'étalonne. Les skippers de tête naviguent actuellement dans le Pacifique au large de la Nouvelle-Zélande. Voilà Anne, c'est la fin de ce journal.
Merci Karine Bellicha. Le prochain journal, c'est à 14h, temps universel. Et pour l'heure, durant les 20 prochaines minutes, on parle de l'actualité du continent américain et on prend d'abord la direction d'Haïti.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Haïti, où la presse et les réseaux évoquent de nouvelles violences. Vincent Souriau, vous les avez lues pour nous. La coalition de groupes armés Vivre Ensemble continue de terroriser la capitale.
Et plusieurs attaques ce week-end, en particulier dans le quartier de Poste Marchand, où des bâtiments ont été incendiés, y compris l'église de Dieu, qui, d'après nos informations, était heureusement vide au moment de l'incendie. On parle d'une zone située à moins de 2 km du palais national et des ministères haïtiens. Plusieurs individus blessés par balles lors de ces incidents. Et le porte-parole de la police nationale haïtienne indique indique que les gangs y ont subi de lourdes pertes. Parmi les personnes tuées figure donc l'un des plus importants lieutenants de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un homme surnommé Candy ou Jeff Mafia, qui a perdu la vie pendant les affrontements avec les forces de l'ordre.
Et dans ce contexte, l'insécurité alimentaire s'aggrave en Haïti. Le président de transition en a parlé durant le week-end lors d'un sommet de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Leslie Voltaire a demandé de l'aide à ces pays.
Nous demandons l'aide de nos frères de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques. Une aide pour la sécurité de notre pays, mais aussi une assistance alimentaire. Parce qu'il y a 6 millions d'Haïtiens qui meurent de faim en cette période de Noël.
6 millions d'Haïtiens qui ne peuvent pas se nourrir, dit le président de transition. Et c'est encore pire, encore plus difficile pour les déplacés. Ces milliers de personnes vivent dans des conditions extrêmement précaires à Port-au-Prince, abandonnées par l'État, insuffisamment soutenues par des organisations humanitaires, elles aussi empêchées par les gangs. Aujourd'hui, Peterson Luxama, manger à sa faim n'est plus une évidence ou un droit, mais un luxe.
10h du matin, nous sommes à l'ancien local du lycée Marie-Jeanne de Port-au-Prince, aujourd'hui transformé en camp de fortune. Ici, des milliers de déplacés internes vivent dans des conditions précaires. Leur plus grand combat, trouver de quoi se nourrir, à l'image de Madeleine, 85 ans.
Depuis ce matin, je me suis levée sans rien manger. Je n'ai rien trouvé à me mettre sous la dent. La faim me tue.
Steve Fleurenfils est l'un des responsables du centre. Il explique que la faim ronge les déplacés dans cet espace. La situation est d'autant plus difficile que pour survivre, des enfants fouillent dans les poubelles à la recherche de quoi manger.
La situation est incroyable ici. Les gens crèvent de faim, ils ne vivent pas. Avant-hier, un enfant fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi manger. Quand nous sommes allés sur place, nous l'avons vu se nourrir réellement de simples cosses d'haricots trouvées dans les ordures. Nous sommes allés à la rencontre de sa mère. Elle nous a dit qu'elle aurait fait pareil si la honte ne l'avait pas retenue, car elle a faim, elle aussi.
Une situation de faim aiguë qui pousse ses déplacés à des extrêmes. Martine Pierre, mère de 6 enfants, a fui Carrefourfeuille après que sa maison a été incendiée par des gangs armés. Elle n'a rien sauvé. Aujourd'hui, elle lutte pour offrir un minimum à ses enfants.
Quand je ne trouve rien à manger, parfois une voisine me donne quelque chose pour apaiser ma faim avec les enfants. Si personne ne m'est venu en aide, nous passons la journée sans rien. Je bois de l'eau et je mets un grain de sel sous ma langue.
Une triste réalité pour ces milliers de déplacés que les autorités concernées semblent jeter aux oubliettes. Alors que la situation s'aggrave, les interventions gouvernementales ne se font pas vraiment sentir. Des organisations humanitaires tentent de venir en aide aux victimes. Mais cette assistance est loin de répondre aux besoins réels sur le terrain, estime Steve Fleurenfils.
Les gens meurent de faim ici. Parfois, le Programme alimentaire mondial distribue de la nourriture pour une semaine, mais il peut s'écouler 2 à 3 mois avant la prochaine distribution. Et pendant ce temps, bien sûr, la faim persiste et l'intervention de l'État reste quasi inexistante.
Marcus Saint-Jean, 29 ans, vit dans ce camp de fortune depuis près de 9 mois. Il vient de recevoir un kit d'hygiène d'une organisation humanitaire. Mais ce kit est loin de satisfaire ses besoins les plus pressants.
Je me suis battu pour obtenir ça. Regarde bien. Voilà ce qu'on nous donne, alors que les bandits nous ont chassés. Moi, ce que je veux, c'est de la nourriture. Je veux aussi de l'argent, parce que je n'ai aucune intention de rejoindre les groupes armés.
Selon le dernier rapport du Programme alimentaire mondial, près de la moitié de la population haïtienne, soit 5,4 millions de personnes, souffrent de faim aiguë. Parmi elles, plus de 2 millions se trouvent en situation d'urgence alimentaire, selon la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, CNSA, qui se dit profondément préoccupée par la situation. L'agronome Armel Cazot, coordonnateur de cette structure, tire la sonnette d'alarme.
C'est une situation qui est préoccupante pour nous-mêmes.
Oui, c'est une situation qui nous préoccupe, nous qui effectuons le suivi des questions alimentaires dans le pays. L'ensemble des indicateurs montre que la situation est grave, surtout pour les enfants, les femmes allaitantes et les personnes âgées déjà en situation de malnutrition. Ils ont dépassé le seuil d'alerte de 10% fixé par l'OMS. Dans les sites de déplacés, entre 24 et 25% des personnes, principalement des enfants, sont en situation de malnutrition.
La CNSA appelle à des actions urgentes des autorités en place en vue d'éviter éviter le pire.
Il y a une réponse d'urgence qu'il faut faire. Une réponse d'urgence.
Il faut qu'il y ait des réponses d'urgence pour apporter un soulagement face à cette situation. Une réponse qui s'étende non seulement à court terme, mais aussi à long terme, avec des actions structurantes. Les déplacés dans les camps de fortune doivent figurer parmi les priorités absolues, car cette catégorie de personnes vit dans des conditions presque inhumaines et exécrables. On ne doit pas les négliger ni les laisser sans assistance.
Des solutions qui doivent être mises en œuvre rapidement, car le spectre d'une véritable catastrophe humanitaire plane sur le pays, déjà au bord de l'effondrement. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
À Port-au-Prince, il est 8h15, une heure de plus à La Paz. Et on vous retrouve, Vincent Sourio, pour la suite de votre revue de presse. On va dire un mot des élections judiciaires en Bolivie. On les avait évoquées ici la semaine dernière. Le scrutin s'est tenu ce week-end sans incident.
Sans incident, mais sans enthousiasme. 80, voire 90% des électeurs ne savent pas pour qui ils ont voté, regrette dans les pages de La Razón l'ancien candidat à la présidentielle, Manfred Reyes Villa. Les candidats n'avaient pas le droit de faire campagne. Et encore une fois, dit-il, la majorité des bulletins seront nuls. Le scrutin a pris fin après 8 heures de vote. Les procès-verbaux sont en cours de dépouillement. Premier résultat attendu après-demain, selon le tribunal électoral suprême. Pour rappel, en 2011, le total des bulletins blancs et nuls avait atteint 57% des suffrages exprimés et encore plus, 65% lors du dernier scrutin de ce type en 2017. RFI,
The World's Voices. On prend la direction des États-Unis où depuis quelques semaines, de mystérieux drones sont apparus dans le ciel américain sur la côte Est, dans le Connecticut, à New York et surtout dans le New Jersey. Tout a commencé à proximité de bâtiments militaires. Un membre du personnel a d'abord affirmé avoir aperçu un drone, puis des centaines de personnes ont assuré en avoir vu à leur tour. Dans tout l'État. Des photos, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux et l'affaire prend tellement d'ampleur qu'un aéroport situé au nord de la ville de New York a même dû fermer ses pistes vendredi par mesure de sécurité. Carrie Houghton, vous êtes notre correspondante à New York. Carrie, le problème, c'est que depuis un mois, les autorités n'arrivent pas à localiser ou à identifier ces drones et que sans information, forcément, les rumeurs les plus folles se font entendre.
Oui, il est très difficile pour les Américains de concevoir que l'armée puisse ne pas être au courant. Ça, ça les angoisse forcément et ça rend les élus locaux nerveux. Le golfe de Donald Trump dans le New Jersey est ainsi désormais zone interdite de survol et parfois ça fait même échafauder aux élus des hypothèses sans preuve, comme celle du représentant républicain du New Jersey, Jeff Van Drew.
L'Iran a lancé un vaisseau-mère qui contenait ces drones il y a un mois probablement.
Donald Trump lui-même en a profité pour taper sur l'administration Biden et a lancé que forcément, elle cachait quelque chose. Bref, vous l'aurez compris, la désinformation va bon train.
Ce qui n'arrange rien, c'est que cette administration Biden, justement, affirme que ces drones ne représentent pas de danger. Mais pour autant, elle est incapable d'en dire plus. Écoutons John Kirby, le porte-parole de la Sécurité nationale.
Nous n'avons aucune preuve pour le moment que les observations de drones signalées constituent une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique ou ont un lien avec l'étranger. Le département de la sécurité intérieure et le FBI enquêtent sur ces observations et travaillent en étroite collaboration avec l'État et les forces de l'ordre local pour fournir des ressources en utilisant de nombreuses méthodes pour mieux comprendre leur origine grâce à des technologies de détection électronique très sophistiquées fournies par les autorités fédérales.
Encore ce dimanche, le ministre de la Sécurité intérieure est resté très prudent. Il ne réfute pas que des drones ont pu être vus, mais ils n'ont pas été repérés sur les radars. Les informations sont diverses, mais elles décrivent pourtant des engins de la taille d'une voiture qui volent pendant plus d'une heure et sont capables de passer en mode furtif dans le noir total. Donc, on est bien loin de drones qu'on peut acheter dans le commerce. Le FBI a reçu plus de 5000 appels de personnes qui en auraient vu, mais seulement une centaine semble crédible.
Les élus locaux, eux, dénoncent un manque de transparence. Est-ce qu'on sait comment se déroule l'enquête ?
Eh bien, les autorités fédérales analysent les images partagées sur les réseaux sociaux ou qu'elles ont reçues, et puis elles les ont croisées aussi avec les plans de vol des avions des environs. Et ainsi, John Kirby explique que pour l'instant, il est impossible de confirmer que ce sont vraiment des drones.
Au contraire, après examen des images disponibles, il apparaît que bon nombre des observations sont en fait des avions pilotés et exploités légalement. Les gardes-côtes américains ont patrouillé le long de l'État du New Jersey et ils ont confirmé qu'il n'existe aucune preuve d'une quelconque implication de navires côtiers basés à l'étranger.
Des avions, certainement, pas de drones iraniens, et pourtant le public reste toujours circonspect. Ceci dit, ce que révèle surtout toute cette histoire, c'est un décalage de partage de compétences. Les autorités locales n'ont pas les moyens technologiques ni les autorisations pour enquêter, et les autorités fédérales manquent de réactivité pour des événements si locaux et ponctuels. Donc les élus proposent de faire passer une loi dans quelques jours pour remédier à tout cela. En attendant, la gouverneure de New York devrait recevoir un système de détection de drones ces jours-ci de la part de Washington.
Karine Auton, correspondante à New York. Vol de drones et petit vent de panique aux États-Unis. Donc Vincent Souriau et le Wall Street Journal y voient plus qu'une anecdote.
Oui, on serait tenté d'ignorer tout ça, sauf que plein de théories se baladent et que des millions de personnes pourraient y croire. C'est le monde dans lequel on vit, nous dit le grand quotidien économique de New York. Et désolé d'insister, mais ça ne vient pas seulement, je cite, des cinglés et des complotistes. L'administration Biden a laminé sa crédibilité au point qu'il devient rationnel de ne pas croire ce qu'elle raconte. Souvenez-vous du ballon espion chinois. Au début, ce n'était rien du tout. Et puis, on a fini par le faire exploser au-dessus de l'Atlantique. Sans parler de cette Maison Blanche, poursuit le Wall Street Journal, qui, pendant des mois, a dissimulé la vérité au sujet de la santé mentale et physique déclinante de Joe Biden ou bien de ce gouvernement pendant la période Covid, qui a tenté de censurer les hypothèses alternatives au confinement. Bref, conclut le journal, moins les Américains font confiance aux autorités, plus la panique et les manifestations deviennent possibles. Le gouvernement fédéral des États-Unis devrait préciser avec bien plus de détails au Congrès et à la population ce qu'il se passe vraiment, car ce dont les Américains ont besoin avant tout, Anne, c'est d'un gouvernement digne de confiance.
Vincent Souriau, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on vous retrouve, Benoît Ferrand, pour parler d'abord de la Martinique. Il n'y aura pas beaucoup d'oranges ni de mandarines sur les tables pour les fêtes de fin d'année.
À l'île de la Réunion, ce sont les litchis, mais aux Antilles, ce sont les agrumes, et oui, qui agrémentent traditionnellement Noël et le jour de l'an, sauf que des agrumes, on n'en trouvera pas énormément, paraît-il, cette année en Martinique. Reportage Manuel Larade.
Le climat n'a pas fait de cadeau cette année aux producteurs d'agrumes de chez nous. Abdoul Diré, le gérant de la pépinière Le Monde des Végétaux.
Personnellement, je constate déjà depuis le mois d'octobre-novembre où les premiers agrumes commencent à être sur le marché, je constate que les miens ne sont pas là. Non seulement en quantité, mais aussi en maturité, il y a très très peu dans les arbres. Je soupçonne le fait qu'il y a eu une grosse canicule et en même temps beaucoup de chaleur. Ça fait que c'est tombé au moment de la floraison. On irriguait un peu. Malgré ça, c'était probablement pas suffisant parce que apparemment l'atmosphère ambiante même qui posait problème.
Nous allons devoir passer les fêtes sans nos oranges, nos mandarines pour ne citer que ces agrumes.
Il n'y aura pas beaucoup d'agrumes cette année.
On vous souhaite de bonnes fêtes de Noël, mais ce sera cette année sans vos agrumes préférés.
On reste en Martinique avec les enjeux liés à l'accès à l'eau et à l'assainissement au cœur d'une rencontre ce week-end et en présence d'un député métropolitain qui va bientôt déposer une proposition de loi allant dans le sens d'un véritable droit à une eau de qualité. Reportage Alain Livory.
S'imprégner de la problématique de l'eau et de la réalité martiniquaise, c'est le but de la visite du député LFI Nouveau Front Populaire, Gabriel Amar. Il est entre autres à l'initiative d'une proposition de loi constitutionnelle sur le droit d'accès à l'eau qui pourrait être présentée au Parlement au mois d'avril prochain.
Je viens mettre les doigts dans la prise en quelque sorte, me connecter aux réalités là où il y a de la précarité dans l'accès à l'eau. D'abord parce qu'il y a des gens pas raccordés, aussi parce que l'eau n'est pas de qualité.
La visite a commencé par le forage de Fond Layé en présence de plusieurs associations d'usagers qui militent pour un nouveau plan d'action garantissant une autre politique de l'eau sur le territoire. En résumé, ces associations veulent simplement que la population ait de l'eau au robinet. Félix Catherine, l'un des porte-parole du collectif SOS Glo Chelchet, suivi de Pascal Bettel, porte-parole du collectif des usagers d'Acajou.
L'objectif, c'est qu'il y ait de l'eau pour tout le monde. L'objectif pour nous, c'est que faire de l'eau une priorité territoriale, parce que les Martiniquais attendent cela.
Il faut marquer le coup, et c'est important que nous ayons la visite de ces parlementaires-là aujourd'hui.
Cette visite, à l'initiative du député Marcelin Nadeau, devrait se conclure par un forum sur l'eau au quartier Morne-Capot, au Lorrain.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Et merci à tous d'être avec nous. L'actualité des Outre-mer françaises, c'est aussi bien sûr la situation à Mayotte, cette île de l'océan Indien dévastée par le passage du cyclone Chido durant le week-end. L'unique hôpital est très endommagé. On y reviendra dans le prochain journal dans un peu plus d'une demi-heure. Cela inquiète dans un département où le système de santé était déjà très éprouvé. Département qui avait aussi connu une épidémie de choléra il y a quelques mois. De la musique avant de se quitter avec le producteur français de hip-hop et de funk Guts, c'est un ancien du groupe Alliance Ethnique, voici le titre Come Closer. C'est donc avec Guts que se termine RFI Midi. L'émission était réalisée aujourd'hui par David Brockway. Vous restez avec nous dans une minute maintenant de vive voix. Chantal Leroux reçoit le cinéaste Matthew Rankin pour parler de son film Une langue universelle. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h30, temps universel. Très bonne journée à tous.
RFI, la sélection du mois.
Roseau et Mélissa Lavaux.
Why should I smile? Why should I smile for you? Voice once sublime, now whistle sour tunes. I have no time.
Chaco the Great et Minkata. Baby,
RFI Musique.